C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 17 octobre et aujourd'hui nous parlerons performance sportive et adaptation du corps dans des conditions de température extrême.
Un sujet abordé hier à l'école d'ingénieurs de Caen lors d'une conférence à l'occasion de la fête de la science.
Présents lors de cet événement, nos deux invités du jour, tout d'abord Marion Joffle, nageuse de l'extrême, mais aussi Benoît Mauvieux, chercheur au laboratoire Vertex de l'Université de Caen, qui travaille notamment sur les questions liées aux performances sportives.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
Et pour commencer, Axel, on a appris le décès d'un monstre sacré de la science.
Et en voilà un qui est parti comme il est arrivé, en poussière d'étoiles. Comme l'expression qu'il a popularisée, Hubert Reeves s'en est allé vendredi dernier à l'âge de 91 ans. Il a notamment expliqué que la plupart des éléments qui nous constituent, tels que le carbone, l'azote ou l'oxygène, sont tout simplement issus des étoiles. Hubert Reeves est avant tout un vulgarisateur hors pair. Il a ainsi sillonné les plateaux télé, animé de nombreuses conférences et même joué dans des films. Le tour de force d'Hubert Reeves, c'est qu'il allait droit au but. Ce qui lui a permis de mettre la science à portée de tous. Ce qu'il aimait avant tout, c'était raconter des histoires, un gène qu'il tenait de sa grand-mère, conteuse québécoise. Mais Hubert Reeves, c'est aussi bien sûr un spécialiste, un éminent scientifique même, qui a brillé dans son domaine, l'astrophysique, pendant plusieurs dizaines d'années. Son dada, c'était le cosmos et l'univers.
Mais il n'était pas que physicien.
Oui, en plus de sa double casquette d'astrophysicien et de vulgarisateur, il portait aussi celle de défenseur de l'environnement. Militant climatique dès les années 2000, il prônait notamment le végétarisme et alerté sur l'état inquiétant de notre environnement. Pour lui, l'astronomie et l'écologie sont les deux faces d'une même pièce, l'existence. Il estimait la chose suivante, l'astronomie nous dit d'où nous venons et l'écologie nous dit comment rester. La NASA vient de lancer une toute nouvelle mission spatiale. Ce vendredi, une fusée a décollé direction l'astéroïde Psyché.
Et oui, c'est une mission inédite vers un astre très mystérieux dont les scientifiques espèrent percer l'énigme. Ils veulent comprendre quel est cet étrange objet métallique. La théorie la plus probable, c'est qu'il s'agisse du noyau d'un ancien corps céleste ou d'un corps céleste en formation. Si c'est le cas, alors son étude permettrait d'en savoir plus sur le cœur de notre propre planète.
Alors, mieux connaître le noyau terrestre, c'est une chose, mais l'intérêt de la mission est peut-être aussi financier ?
Et oui, car la valeur de l'astéroïde est de, tenez-vous bien, 10 000 quadrillions d'euros, une somme coquette qui fait que si l'astre était partagé équitablement entre chaque terrien, chacun recevrait 1,4 milliard d'euros. Bon, plus sérieusement, il est peu probable que l'astéroïde génère de l'argent, déjà parce que techniquement, ramener sur Terre des morceaux d'un corps céleste de 280 km de diamètre, c'est évidemment compliqué. Ensuite, ça coûte cher, mais surtout, car le droit de l'espace empêche toute personne ou tout état de s'approprier un corps céleste, ça vaut pour la Lune et ça vaut donc aussi pour Psyché. Les médicaments permettant de lutter contre l'obésité n'ont pas que des effets positifs.
Oui, c'est ce qu'ont démontré plusieurs études américaines et canadiennes. Pourtant, ces médicaments portent bien leurs fruits. Ils permettent jusqu'à 21% de perte de poids. Mais cet avantage comporte son lot d'effets secondaires, notamment pour deux médicaments, le sémaglutide et le tirzépatide, qui agissent comme antidiabétiques. Et puis, puisqu'en France, près d'un individu sur cinq souffre d'obésité, ces médicaments sont de plus en plus répandus. C'est pour cette raison que ces chercheurs se sont penchés sur la question des effets secondaires.
Et comment se manifeste-t-il concrètement ?
Eh bien, ces dernières études ciblent deux conséquences principales, les problèmes gastro-intestinaux d'abord, avec à la clé un risque 4 fois plus élevé de développer une inflammation du pancréas, ou bien une gastroparésie, un trouble qui ralentit ou arrête le mouvement des aliments de l'estomac vers l'intestin. Rien qui ne fasse très envie, mais ce ne sont pas les seuls effets. Ces médicaments ont aussi une incidence sur la masse musculaire. Forcément, en perdant des kilos, le corps risque carrément la faiblesse musculaire. Même si on est loin d'avoir découvert la totalité des effets secondaires provoqués par ces médicaments, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que les bénéfices dépassent les risques. Au Pérou, des chercheurs finlandais et américains viennent d'observer de nouvelles espèces de guêpes.
Oui, au total, ce sont 109 nouvelles espèces de guêpes qui viennent d'être découvertes. Parmi elles, il y en a une qui attire l'œil des scientifiques, Capitojopa amazonica, c'est son nom. Elle est jaune vif, mesure jusqu'à 1,7 cm de long et possède une grande tête.
Mais alors, pourquoi c'est elle précisément qui a retenu l'attention ?
Eh bien parce que certes, elle pique, mais elle a aussi une autre faculté, elle peut pondre des œufs à l'intérieur de sa proie. Dans les jours qui suivent, c'est l'éclosion et les larves commencent à manger l'intérieur du corps de la victime jusqu'à la mort. Alors c'est sûr que dit comme ça, ça fait froid dans le dos, mais rassurez-vous, elle ne s'attaque qu'aux anthropodes, elle est donc inoffensive pour les humains. Et pour finir, Axel, on aurait enfin percé le mystère du ronronnement des chats.
Oui, les scientifiques cherchaient du côté du cerveau, il fallait en fait chercher du côté du larynx. Ça fait longtemps que le ronronnement des chats est un sujet qui intéresse la recherche, qui pensait que ce phénomène se déclenchait grâce à ce qu'on appelle des contractions musculaires actives directement liées au cerveau. Or, contre toute attente, c'est en excisant le larynx de chat euthanasié qu'on s'est rendu compte qu'il continuait de fonctionner en produisant un son qui se rapproche de celui du ronronnement sans pour autant être aidé par sans l'aide directe du cerveau.
Et comment est-ce qu'on explique qu'il continue de produire un son aussi faible soit-il ?
Eh bien, à travers cette découverte, les chercheurs ont mis en lumière une particularité du chat, la présence d'un tissu de 4 micromètres d'épaisseur qui entoure leur corde vocale, ce qui expliquerait pourquoi ils arrivent à produire ce son grave et continu. Cette spécificité reste quand même à préciser, puisqu'elle n'a pas encore été observée en conditions in vivo, c'est-à-dire sur des sujets vivants.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Hier, à l'ENSI, l'école d'ingénieurs de Caen, se tenait une conférence consacrée aux capacités du corps humain à son adaptation face aux grands changements qui arrivent, un événement en lien avec la fête de la science qui met cette année le sport à l'honneur.
Présente à cette conférence, la nageuse de l'extrême Marion Joffle, originaire de la région. Elle est à 24 ans spécialiste des performances dans les eaux froides. Elle est par exemple devenue en 2018 la première française à parcourir 1000 mètres en eau glacée. Elle détient également le record de France de la traversée de la Manche à la nage. Et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi accompagnée de Benoît Mauvieux. Bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Vous êtes chercheur au laboratoire Vertex de l'Université de Caen et vous travaillez notamment sur les questions liées aux performances sportives. Je me tourne d'abord vers vous, Marion Joffle. Comment en êtes-vous venue à vous lancer de tels défis ?
Alors, de tels défis, en fait, ils sont venus petit à petit. Au tout début, ça a été des petits défis en eau libre sur du 1 km, puis sur 5, puis sur 10, pour finalement arriver aux 25 km. Mais c'est ce qui m'a réellement poussée, je pense que c'est la fin de ma rémission, qui s'est terminée en 2015, âgée alors de 16 ans, et j'ai voulu en fait vivre ma vie plein d'aventures, plein de défis, et c'est là que sont nés vraiment tous mes défis.
Et comment est née la rencontre en particulier avec la natation en eau froide ?
Alors la natation en eau froide est arrivée suite au défi de la traversée de la Manche à la nage. Donc en fin d'année 2016, je me lance comme défi la traversée de la Manche, liée à une histoire que j'ai entendue d'un nageur qui est devenu mon papa de cœur, Philippe Faure, qui m'a conseillé d'aller nager dans les eaux un peu plus fraîches. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à goûter à des températures de 10-11 degrés. Et il m'a dit, Marion, il faut absolument que je t'emmène à Wetzbronn en Allemagne, donc pour janvier 2018, nager 1 km en ice swimming, donc la natation en eau glacée. Et en janvier 2018, je nage mon tout premier 1000 mètres à 3,8 degrés en 15 minutes et 56 secondes.
Et quand on fait de la natation comme ça, dans ce genre d'univers quand même particulier, quelles vont être les principales difficultés auxquelles on va être confronté ?
Alors la toute première difficulté, c'est déjà la douleur qu'on va ressentir quand on n'est pas du tout habitué à s'immerger dans des eaux aussi froides, donc comme des sensations de milliards de poignards dans le corps. Une douleur qui est assez intense, mais de courte durée, puisque l'anesthésie va arriver petit à petit et, on va dire, effacer ces petites douleurs et souffrances pour nous plonger dans un sentiment un peu de bien-être, mais qui peut être dangereux dans le sens où on peut se laisser emporter par ce sentiment.
Comment se passe votre préparation lorsque vous lancez de pareils défis, aussi extrêmes soient-ils ?
Eh bien, pour se préparer pour ce genre de défi, forcément, il faut beaucoup de préparation en amont, que ce soit en natation ou bien en acclimatation au froid. Donc, pour ma part, la seule solution que j'ai pu trouver, c'est de m'entraîner en chambre froide, donc en m'immergeant 2 fois 15 minutes en moyenne par semaine, pouvant aller jusqu'à 30 minutes, par exemple, juste avant l'épreuve d'un ice mile. Mais voilà, c'est beaucoup de préparation et beaucoup d'adaptation au froid et notamment essayer de prendre du poids, ce qui n'est pas chose facile pour moi.
Pourquoi ? Parce que prendre du poids, ça aide quand on fait ce genre de performance, c'est plus facile d'être plus lourd ?
Pouvoir avoir un pourcentage de masse graisseuse un petit peu plus supérieur à la moyenne est très bénéfique parce que ça nous permet de nous protéger un peu plus du froid. Cependant, pour ma part, c'est très difficile parce que je n'arrive pas à prendre de poids. Et effectivement, c'est plus facile pour ceux qui ont une masse graisseuse plus supérieure. La mienne est relativement faible parce qu'elle est aux alentours de 20% et j'espère pouvoir augmenter à 22, 23, voire 25%. Ce serait vraiment formidable.
Et quand vous faites les performances que vous faites, est-ce que vous avez des conséquences que vous ressentez sur votre corps, qu'elles soient positives ou négatives, une fois que vous êtes sorti de l'eau ou même pendant que vous nagez ?
Juste après la sortie d'eau, je dirais après un bon petit réchauffement, entre 30 et 1 heure après la sortie, on a cette phase un petit peu d'euphorie où on est un petit peu foufou et c'est le cas pour moi, je me mets à danser, chanter, crier, rigoler parce que j'adore ça et que j'ai le sentiment vraiment de bien-être et d'extase. Et quelques jours après, d'un point de vue physique, il se peut que j'ai une grosse fatigue forcément parce que le corps a bien travaillé pendant la journée de la nage, donc il faut qu'il se repose un petit peu. Mais je dirais, ce que je garde vraiment bien en mémoire, c'est quand même ce côté un peu euphorique qui nous envie et nous donne l'envie surtout de recommencer à faire ce genre d'épreuves.
Et à plus long terme, est-ce qu'il y a des conséquences ? Est-ce que les performances sportives dans un froid ou une chaleur extrême, par exemple, peuvent avoir des conséquences potentiellement durables sur la santé ?
Alors en fait, est-ce qu'il y a des conséquences à long terme ? Bah, j'ai envie de dire, ça va dépendre de la pratique. Dans le cas de Marion, il peut y avoir une adaptation effectivement qui va se faire au long cours. C'est-à-dire qu'après des années de pratique, soit vous restez dans la pratique parce que votre corps s'y est parfaitement adapté, comme par exemple une évolution de la masse grasse ou des choses comme ça. Après, en général, si vous n'êtes absolument pas adapté à ce genre de compétition parce que systématiquement vous abandonnez ou systématiquement à la sortie de l'eau vous n'arrivez plus à récupérer avec un phénomène connu chez les nageurs, on appelle ça l'after drop. Si ça devient tellement insupportable, souvent en général les sportives vont s'orienter sur une autre pratique sportive. Après, dans les sports de l'extrême, on a des activités comme par exemple le cyclisme d'ultra-endurance ou le trail de très très longue durée. Alors les intensités en fait sont tellement faibles, hein, c'est vraiment des activités qui vont durer 20, 30, 40, 50 heures. Donc évidemment sur des temps comme ça l'intensité est beaucoup plus faible. Et finalement si on fait un peu l'analogie et si on regarde un peu les résultats des différents protocoles qu'on vient de terminer, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas vraiment de casse musculaire et que le système cardiovasculaire il est sollicité certes pendant de nombreuses heures mais pas des intensités hautes et finalement les risques cardiovasculaires sont relativement minimes.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que tous les humains ont les mêmes capacités physiologiques ? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que tout le monde est capable de faire ce que fait Marion ou est-ce que quand même il faut avoir une certaine prédisposition ?
Oui, aujourd'hui, c'est un peu la thématique du laboratoire. On essaie justement d'identifier quels sont les marqueurs. Hein, les marqueurs, quand je dis marqueurs, c'est est-ce que ce sont des profils de personnalité ? Est-ce que c'est des compositions corporelles différentes, des petits, des grands, plutôt les hommes que les femmes, plutôt les gens qui sont endomorphes, ectomorphes ? Est-ce que la composition de la fibre musculaire, est-ce que votre patrimoine génétique, tout ça sont des déterminants qui vont vous permettre de mieux vous adapter ? Donc ça c'est ce qu'on est en train de rechercher. Effectivement oui, on voit bien que dans la performance sportive de toute façon il y a des profils on va dire des prérequis à avoir et puis après il y a beaucoup de travail, beaucoup de volonté aussi, c'est-à-dire que votre motivation quel que soit d'ailleurs le milieu, hein, ça peut être un milieu, une situation extrême au sens sportif, mais ça peut être aussi une situation de la vie suite à je sais pas un incident de famille ou tout simplement je minimise pas les propos. Mais par exemple, pendant la crise de la Covid, eh bien, on avait une situation de crise qu'on peut finalement assez rapprocher des situations extrêmes que l'on rencontre en situation sportive. Et cette situation de crise, elle a touché tout le monde. Et en fait, il y a des personnes qui ont plus ou moins bien vécu cette crise-là, non pas uniquement parce que leurs conditions environnementales, familiales le permettaient, mais aussi parce qu'elles se sont projetées dans d'autres projets. C'est-à-dire qu'elles ont profité de cette situation en disant finalement, oui, on est confiné, oui, c'est pas forcément très sympa, mais à la fois, ça va nous permettre de rencontrer, de lire ou de s'investir dans d'autres projets. Et finalement, je pense que les gens qui se lancent dans ces activités-là ont aussi profondément l'envie, la motivation d'aller se chercher, d'aller se rencontrer. Et je pense que quand vous êtes dans une situation d'ultra-endurance ou quand vous nagez comme ça des heures et des heures pour la traversée de la Manche, eh bien en fait, oui, vous avez mal à la hanche, oui, vous avez froid, mais au-delà, vous êtes animé par par un projet qui vous tient à cœur. Et si vous focalisez en fait votre attention sur il y a des méduses, l'eau est froide et j'ai mal partout, bah évidemment vous allez avoir des pensées plutôt négatives qui vont vous faire abandonner. Et si au contraire vous êtes dans l'émerveillement et puis dans la passion, et bien alors vous allez passer au-dessus, inhiber la réception des douleurs. Hein. Le corps envoie des signaux de douleur et vous allez les inhiber pour les transformer en quelque chose de plutôt positif. Donc j'ai envie de dire, ma réponse elle est un peu simpliste, mais c'est ça en fait. Il y a des gens qui ont beaucoup de caractère, de positivité, et puis des gens qui sont toujours optimistes. Eh bien ces gens-là, souvent, ils avancent un petit peu plus vite que les autres, quoi.
C'était votre cas pendant vos différentes traversées, ce côté peut-être mental qui a plus joué, qui a pris le dessus, ou positivisme?
Je pense honnêtement oui, malgré une grande grande charge d'entraînement à côté d'un point de vue physique, mais c'est le mental qui me guide énormément dans tous mes projets.
C'était aussi un des objets de la conférence tout à l'heure, les changements, que ce soit liés au dérèglement climatique ou autre, vont amener de plus en plus le corps humain à être confronté à des nouvelles conditions. Est-ce qu'il est capable de s'adapter rapidement?
Alors sur le plan physiologique, le corps humain, il a quand même certains besoins, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une phase d'acclimatation qui va en fait modifier des mécanismes de la physiologie. Alors je vais prendre un exemple très simple, ça nous arrive parfois aussi en Normandie l'été d'avoir un peu une petite canicule. Donc en fait, pour rester à une température constante de 37 degrés, le corps en fait, il va devoir évacuer sa chaleur. Donc pour ça, eh bien, on va devoir souvent transpirer beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'en quelques jours, 7, 8, 10 jours, selon les personnes, eh bien vous allez finalement améliorer votre efficacité à transpirer, votre efficacité à recruter le nombre de glandes sudorales qui vont sécréter votre sueur. Vous allez améliorer votre débit sudoral, vous allez filtrer les sueurs. Donc il y a des adaptations vraiment physiologiques qui vont se faire. Il y a des adaptations aussi comportementales, c'est-à-dire que vous allez aussi modifier par exemple vos horaires de travail en vous levant plus tôt, en faisant une petite pause sur la période la plus chaude de la journée, reprendre votre activité en soirée, etc. Donc on trouve des parades et des organisations un petit peu différentes. Et puis après on a aussi aujourd'hui une solution de simplicité, c'est-à-dire utiliser forcément la mécanique et l'énergie, c'est-à-dire utiliser tout simplement le chauffage ou les climatiseurs. Alors c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas durable dans le temps, hein, au regard du nombre de milliards de climatiseurs qu'il faudrait, et puis surtout de l'énergie nécessaire pour ça. Donc l'humain, en fait, nous, en tous les cas, on voit que des personnes sans forcément des grandes prédispositions arrivent, après quelques années d'entraînement, à faire des ultra-trails, par exemple à courir 160 km, arrive effectivement à nager des distances remarquables, arrive à faire des cyclosportifs comme la course Paris-Brest-Paris. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément de grandes aptitudes physiologiques. Mais finalement, dès que l'humain il est un peu sollicité, eh bien, je pense qu'il a dû répondre. Alors aujourd'hui, on n'en est pas forcément conscient parce que dès qu'on nous demande de sortir de notre zone de confort, ça nous coûte, on n'y est plus habitué. Mais on n'est plus habitué, on ne le fait pas parce que justement par confort et par fainéantise, hein, il n'y a pas de reproche en disant ça, c'est beaucoup plus simple effectivement d'allumer le chauffage que de remettre un pull ou d'accepter de vivre dans une pièce à 16 degrés. 16 degrés, il fait pas froid à 16 degrés, c'est juste qu'aujourd'hui on est purement acclimaté à vivre à 21 degrés. Donc je crois que le corps il a du répondant, et heureusement pour nous. Je crois qu'on a encore quelques belles années, alors on va pas rentrer dans le débat écologique et énergétique, mais je pense que tout l'enjeu est là, et le jour où malheureusement on n'aura plus, heureusement ou malheureusement d'ailleurs, moi j'ai envie de dire heureusement on n'aura plus d'énergie, et bien justement on va être obligé de trouver d'autres solutions, et l'une des solutions de s'adapter, ça va être de s'adapter, peut-être de se modifier sur le plan de nos corps et de notre physiologie.
Et d'ailleurs le fait que vous, Marion, vous ayez l'habitude de travailler, j'ai envie de dire, dans l'inconfort, ça vous aide à mieux passer les différents désagréments du quotidien, les petits inconforts qu'on peut avoir au quotidien, enfin que n'importe quelle autre personne pourrait avoir au quotidien?
Concrètement, quand je vivais encore chez ma mère, quand je commençais l'eau glacée, elle coupait complètement le chauffage. Donc des fois, l'hiver, on descendait à 11-12 degrés dans la maison. Ça ne m'a jamais dérangée. Il fallait juste mettre un petit jogging en plus, des grosses chaussettes, un petit plaid, enfin... Voilà, un peu plus de vêtements, mais j'aimais bien en fait être dans cette zone un peu confortable de beaucoup de vêtements en laine. Mais ça m'a jamais grandement dérangée, et je pense que je me suis adaptée très facilement parce que j'y étais confrontée.
Oui, on peut imaginer que sans la natation, ça aurait peut-être pas été aussi facile.
Bah, je commençais tout juste, donc je n'avais pas forcément encore idée de ce que pouvait m'apporter l'eau glacée. Mais j'étais déjà plus ou moins préparée, et si ma mère avait fait ce choix-là aussi, c'était également par rapport au coût financier. Donc c'était aussi pour faire des économies de chauffage.
On continue de parler des capacités du corps dans des conditions extrêmes avec vous, Marion Joffle et Benoît Mauvieux. Mais avant, on va faire une pause musicale et écouter Falling or Flying de Georgia Smith. A tout de suite dans C'est pas faux.
Listen what your mother told you. It's night and day. If you're waiting for a sign to come and hold me, well, you might as well spend all your night guessing. Listen what your mother told you. Forget what she said. Oh, if you want this to be real, show me you want me. Don't play it safe with me. Oh, love. Won't work if I know. Won't stop if I love. Who hurts if you don't? Don't fall from me.
C'était Falling or Flying de Georgia Smith. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Et aujourd'hui, nous sommes avec Marion Joffle, nageuse normande spécialisée dans les performances en eau froide, ainsi que Benoît Mauvieux, chercheur au laboratoire Vertex de l'Université de Caen. Ensemble, nous parlons de performances sportives et plus particulièrement de l'adaptation du corps humain dans des conditions extrêmes. Marion Joffle, j'imagine que lors de vos performances, vous passez par des phases compliquées. Comment est-ce qu'on fait face à la douleur ?
Très bonne question. Alors honnêtement, je pense que j'essaie de ne pas y penser. Je sais, c'est un peu paradoxal. Je me dis dans ma tête que c'est qu'une information, que ça va passer, qu'il faut que je pense à autre chose, quelque chose de positif, qui m'éloigne un petit peu de ce que je suis en train de faire. Par exemple, sur la traversée de la Manche, lorsque j'ai eu ma grande douleur à la hanche, j'ai pensé à maman, j'ai pensé aux enfants, j'ai pensé à peut-être que j'allais manger ce soir, enfin plein de choses comme ça, quelque chose qui me détourne de l'attention en fait par rapport à la douleur. Et justement aussi de me dire que j'ai bu que du thé, que j'ai arrêté le mouvement des jambes, je pense que ça a joué dans la disparition de cette douleur. Mais quand j'y fais face, voilà, j'essaie de penser à autre chose et de justement d'éviter à mon esprit de me rappeler que j'ai une douleur quelque part.
On parlait beaucoup de... Oui, pardon, vous...
Non, mais en fait, l'entraînement, souvent, on parle de l'entraînement des sportifs et on a l'impression qu'un sportif, en fait, il s'entraîne dans sa discipline. Mais l'entraînement aussi a pour but et vocation, justement, d'amener à supporter des seuils de douleur qui sont à la fois plus importants. Et on s'aperçoit aussi aujourd'hui, avec les techniques d'imagerie cérébrale, eh bien qu'en fait, toutes les réceptions des canaux de la douleur, donc ça peut être effectivement un muscle qui est ultra fatigué, qui vous envoie des informations sur sa fatigue, ou un ligament ou des choses comme ça. Ça peut être effectivement une douleur, ce qu'on appelle une douleur musculaire, ou le froid qui est extrêmement saisissant. Et bien toutes ces informations en fait arrivent au niveau des cortex préfrontaux, là, dans une zone qui est juste derrière la tête, là, juste au niveau du front. Et en fait, on s'aperçoit que les sportifs arrivent en fait à canaliser ces informations-là, voire à les inhiber. Et si par exemple pour des stimuli qui sont de nature identique, de douleur identique, eh bien on s'aperçoit qu'en fait les sportifs par rapport à des sédentaires en fait vont répondre que cette information douloureuse est beaucoup moins douloureuse, beaucoup moins perçue en fait. Donc je pense que toute la partie aussi de l'entraînement dont on n'a pas forcément conscience, Marion va nager pour nager plus vite, pour avoir une meilleure glisse, pour améliorer voilà sa fréquence, son amplitude, etc. Mais aussi le fait de par exemple de s'immerger en statique, c'est de mieux supporter cette douleur là. Donc il y a vraiment aussi l'entraînement à supporter une condition et à s'entraîner en fait à sortir de sa bulle de confort. Et quand vous y êtes régulièrement habitué, eh bien cet inconfort du départ devient presque une situation plus normale et plus acceptable. Donc en fait, le sportif, il élève aussi son seuil de douleur en fait.
On parle donc beaucoup de mental et de l'utilité du cerveau dans l'effort, mais est-ce que dans des conditions extrêmes de température, le cerveau peut, entre guillemets, vriller, être impacté par des froids extrêmes et avoir des impacts négatifs?
Alors oui, dans les deux extrêmes, hein, dans le chaud comme dans le froid, on l'a tous, alors dans le froid peut-être moins, mais on l'a tous vécu par exemple, parce que dans le froid en Normandie, quand ça arrive, on travaille souvent à l'intérieur, hein, mais... Par exemple, sur des situations où il fait très très chaud dans vos bureaux, eh bien finalement, ça devient difficile de mobiliser, par exemple, son attention sur une tâche cognitive. Donc oui, quand il fait plus de 26, 27, 30 degrés dans nos bureaux, ça devient difficile de se concentrer, difficile d'être efficient. Pareil dans le froid, finalement, va ralentir toute la vitesse de conduction dans le système nerveux. Et donc, par exemple, Marion, tu pourras en parler, mais je sais que sur des situations de nage, à un moment donné, on va presque tellement avoir une température centrale qui descend, qu'on se retrouve dans des situations d'hypothermie proches en fait des états de coma artificiel où on descend les corps à très basse température et finalement le système nerveux central il arrête de fonctionner. Donc finalement c'est là que ça devient dangereux, parce que là où on devrait être vigilant pour se protéger, c'est-à-dire sortir de l'eau ou je vais prendre de nombreux exemples que l'on connaît dans le monde de la montagne, des alpinistes qui sont extrêmement chevronnés, qui sont très compétents, vont faire des erreurs de manipulation de cornes, avoir des accidents. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en hypothermie, non pas parce qu'ils connaissent pas les techniques de cornes, mais tout simplement là, à ce moment précis, ils sont incapables de se mettre en sécurité, c'est-à-dire s'encorder, se réhabiller, allumer le réchaud, faire un thé, manger. En théorie, ils le savent, mais leur cerveau, en fait, n'est plus en mesure de prendre ces bonnes décisions et de s'auto-protéger, en fait.
Alors, le sport, dans des conditions extrêmes, peut être parfois risqué, lors des canicules notamment. L'activité physique est systématiquement déconseillée. Mais pourquoi est-ce que c'est dangereux, particulièrement ?
Hormis ce que vous venez d'évoquer sur le fait d'être moins attentif.
Alors, en fait, moi, je crois pas que l'activité physique soit déconseillée. Enfin, elle est déconseillée. Moi, je pense qu'on peut pratiquer l'activité physique dans tous les ranges de température. C'est pas une problématique. Par contre, il faut en mesurer les conséquences. Faire de l'activité quand il va faire très, très chaud, ça va évidemment augmenter votre température centrale. Donc, ça veut dire qu'en fait, le corps, lui, il a un débit sanguin. Hein, le cœur va envoyer un flux de sang maximum et se sent... En général, quand on fait du sport, sa priorité, c'est de l'envoyer plutôt vers les muscles pour les alimenter. Mais ces mêmes muscles vont produire de la chaleur. Et cette chaleur, en fait, va être retransportée au retour par le sang, qui va passer à ce moment-là par la peau, pour, hein, on devient un peu tout rouge, voilà, vous le savez, vous devenez un peu tout rouge quand vous faites du sport. Ben, en fait, ce flux sanguin cutané, il a pour but d'évacuer la chaleur, de la transporter au niveau de la peau, et par des phénomènes de thermodynamique comme la radiation, l'évaporation, eh bien, on va évacuer la chaleur. Donc forcément, quand il fait plus chaud, eh bien, finalement, vous allez produire plus de chaleur. Pas parce que vous courez plus vite, pas parce que votre corps produit plus de chaleur, mais parce que vous avez cette incapacité à enlever plus de chaleur. Donc en fait, ce que vous allez faire, eh bien, quand vous faites du sport qui fait très chaud, d'abord, il faut 1. Prendre une tenue adaptée, 2. Partir avec, comme vous allez beaucoup, beaucoup transpirer pour évacuer cette chaleur-là, bah, vous allez devoir compenser cette évacuation sudorale. Et puis, il ne faudra pas non plus vous attendre à faire des performances de même intensité, puisque vous êtes limité vous-même par cette surchauffe. Donc on peut faire du sport quand il fait chaud, moins longtemps, moins intensément, en prenant des précautions, et puis peut-être derrière, effectivement, en s'immergeant un peu dans l'eau froide pour refaire la température. Mais c'est pas interdit de faire du sport dans la... Par contre, ce qui est un petit peu, je trouve, dommageable, c'est que certains organisateurs, et il n'y a pas de... par exemple, vont programmer des courses en plein été dont le départ est à 15h. On ne prend pas le départ d'un marathon à 15h ou d'un triathlon.
Oui, on peut penser à ce qui s'est passé notamment au JO de Tokyo.
Exactement. Donc l'idée aussi, c'est de programmer des horaires qui sont beaucoup plus compatibles, soit en fin de soirée, soit très très tôt le matin, quand on est en situation de canicule, comme ça peut nous arriver ici aussi en France.
Et même si, donc, on l'a vu, ça a un impact sur la performance et sur le confort de faire du sport dans des conditions extrêmes, est-ce que malgré tout, je me tourne surtout vers vous Marion, on finit par développer un goût pour les températures extrêmes? J'imagine que vous êtes peut-être aujourd'hui plus à l'aise à nager dans du froid que dans des températures modérées.
Bah depuis 2018 que je pratique cette discipline, c'est sûr que je me suis vue évoluer et je me suis beaucoup améliorée aussi au niveau de la récupération, comment je rentre dans l'eau, comment je vis l'instant présent. C'est sûr que si je parle à la jeune nageuse en 2018 qui découvre son premier 1000 mètres à 3,8 et la jeune nageuse qui nage maintenant des ice miles dans les lacs à 2200 mètres d'altitude, c'est sûr qu'il y a une grande marge de progression. Et en fait, si je garde ce goût-là de cette discipline en extrême, c'est parce que je me demande jusqu'où je peux aller. Quand est-ce que sera la prochaine échéance ? Ça me fait aussi découvrir du pays, des cultures, des histoires. Je rencontre plein de personnes aux histoires vraiment inspirantes. Et c'est ce que j'aime en fait, c'est que c'est pas que la natation en elle-même, c'est pas que s'immerger en eau froide, c'est pas que faire une distance. C'est tout un contexte, où on va s'enrichir d'un point de vue culturel, on va découvrir un pays, on va découvrir des cultures, on va rencontrer beaucoup de personnes. Et c'est ce que j'aime à travers cette discipline, c'est vraiment cette richesse humaine à travers ce sport.
Pensez-vous que le corps humain possède des limites qu'on n'a pas encore explorées, si on peut s'interroger là-dessus ?
Bon, certainement, la semaine dernière, je crois qu'il y a encore marathonien qui a encore, voilà, on avait décrit le marathon, la performance de Kipchoge à 2h01 et quelques secondes comme quasiment imbattable, surtout dans les conditions dans lesquelles il avait réalisé. Et puis finalement, la semaine dernière, on a encore eu ce démenti de quelqu'un qui avait réalisé ça. Donc je crois que l'humain est... Alors entre les techniques d'amélioration comme les lames carbone, etc. Et puis la connaissance en physiologie, l'évolution de stratégies d'entraînement vont faire que les performances vont mieux. Et finalement, ça fait, moi, depuis j'ai 50 ans, depuis que je suis gamin, on a l'impression que plus jamais on pourra battre le record du monde de Carl Lewis. Et puis finalement, alors des fois ça met du temps à tomber, mais les records sont souvent battus. Donc je crois que l'humain nous réserve encore des belles surprises, et puis on a encore des belles traversées, des belles choses à découvrir, et oui, encore des progressions de performance, une marge de progression qui est encore importante, je pense.
Et même pour vous Marion, une marge de progression, j'imagine.
Ah, tout à fait, je pense que je suis encore loin de mes pleines capacités. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même, j'apprends encore beaucoup aujourd'hui, notamment à travers la respiration qui est assez nouvelle pour moi, donc tout ce qui va être technique de respiration que je suis en train d'apprendre. Donc je me dis qu'avec ce petit bagage en plus, je suis peut-être capable d'aller encore plus loin de ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Et je pense que même dans 5 ans, peut-être que je vais encore m'impressionner et me dire que... Et souviens-toi de la petite nageuse en 2023, ce qu'elle était capable de faire, regarde ce que tu es capable de faire aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle Marion Joffle que vous êtes nageuse spécialiste des performances en conditions extrêmes, et Benoît Mauvieux que vous êtes chercheur au laboratoire Vertex de l'université de Caen. Bonne journée à vous et merci encore.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Merci encore à Benoît Mauvieux et Marion Joffle d'avoir répondu à nos questions. A noter que si vous voulez vous intéresser un peu plus aux performances de Marion Joffle, un spectacle qui parlera entre autres de ses exploits est en cours d'écriture à la Comédie de Caen.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec le Dôme qui consacre deux événements au plastique. Mardi à 19h aura lieu Bioplastique, Biofantastique, un temps d'échange avec des experts pour comprendre l'impact des plastiques sur l'environnement et les possibles alternatives. Le lendemain, le Dôme vous proposera l'atelier à la pêche au plastique, l'occasion pour vous de prélever et analyser les déchets sur les berges de l'Orne et participer à la recherche sur la pollution aquatique. Tous ces événements sont gratuits. Pour plus d'infos et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site ledôme.info.
Et comme chaque semaine, notre recommandation documentaire, ce soir France 5 propose Prenez soin de vous, une émission consacrée à la fatigue, un mal qui touche les deux tiers des Français et qui engendre des conséquences pour la santé. Prenez soin de vous, c'est ce soir à 21h05 sur France 5.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Johan pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.